Bonjour et bienvenue à Afrique Caraïbes avec Fulgence Blau au micro en ce jeudi 2 mai. Voilà, ça va vite, on est déjà en début du mois de mai 2024, bien sûr, 2024 comme dirait l'autre. Première partie d'émission, mon invité est déjà avec moi en studio, Malick Touré, directeur général de House Gang Plaza. Pour ceux qui connaissent Montréal et Rosemont Petite Patrie, la rue Saint-Hubert, la grande rue commerciale dans Rosemont Petite Patrie, il y a une salle événementielle là-bas qui accueille presque tout, quoi. C'est pas un bar pour aller boire, pour aller picoler. Non. C'est une salle événementielle. Il y a des événements qui se passent là. Il y a des enregistrements d'émissions qui se font là. Il y a des lancements de livres, tout ça. Mais il y a un bar quand même. Mais c'est pas un bar. Il y a un bar où on peut se faire servir de l'alcool, quoi, si on a envie de boire un peu. Mais c'est pas un coin où, à 15h, on dit non, je vais aller prendre un verre. Non, là, il faut complètement. Malick est mieux placé que moi pour décrire son bijou, si on peut l'appeler ici. Et en deuxième partie, il va nous parler de la mission de House Gang Plaza, cette salle événementielle. Deuxième partie d'émission à 17h30, je vais recevoir Henri Pardo, réalisateur comédien, pour nous parler de son long métrage, son premier film long métrage, Carnaval. En salle à partir de demain vendredi 3 mai. Carnaval, c'est pas carnaval, mais Carnaval, K-A-N-A-V-A-L. Il était comédien avant de devenir réalisateur, je l'aurai après le départ de Malick. Et tout de suite, pour ne pas perdre de temps et parler un peu plus avec Malick et avec moi, on a déjà pris la photo de famille. Bonjour Malick Touré.
Salut, ça va bien?
Oui, je vais bien, merci. Et toi?
Oui, super.
Content de te revoir, on s'est vu il y a quelques mois déjà dans ton local là-bas, au travail.
Ouais.
Oui, mais tu as pris le temps d'échanger avec moi. J'ai dit, tiens, il va falloir que tu viennes à Canal M pour parler de cette belle salle, de ce local qui accueille beaucoup d'événements. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est qu'il y a pas mal de gens dans le milieu culturel qui le connaissent, qui sont déjà passés dans sa salle. Alors moi, j'en revenais pas. La musique qui pétait là dans la salle, le DJ avec un autre artiste sur scène qui accompagnait même à la guitare, à la percussion. Je dis, waouh, du jamais vu à Montréal. Quelle innovation. Et c'est un Montréalais. Oui, il est né à Montréal, de parents guinéens et français. Il a fait un bac en communication à l'UQAM. Et puis, c'est un profil stratégie de production culturelle et médiatique. À 15 ans déjà, il se consacre à sa passion pour la musique. À 15 ans. Voilà. Ah, il était entouré peut-être par des gens qui étaient déjà dans le milieu culturel. Voilà. En produisant une compilation de rap montréalais. Initiateur versatile, il organise et promeut dans les années 2000 des événements de nature diverse. Ligue d'improvisation, hip-hop du Québec, LIHQ, conseil de rap, festival de graphe et autres. Le reste, au cours de la conversation, vous allez savoir, il est même DJ, n'oubliez pas ça. Mr. Touré, Monsieur Touré, DJ, Monsieur Touré. Quand j'ai vu ça, ça m'a fait sourire. Malick, comment l'idée est venue? Mais ça ne veut pas dire que Malick a laissé tomber la platine de DJ, non?
Non.
Non.
Pas du tout.
C'est parce qu'on est directeur général de Plaza House Gang, House Gang Plaza, qu'on laisse tomber la platine.
Non, c'est l'équilibre.
C'est la première patience.
Ouais.
Voilà. Ouais. Comment l'idée est venue? Et puis, n'oubliez pas, c'est pas son local privé, c'est un organisme sans but lucratif.
Exact.
Il faut le préciser. Comment l'idée est venue, toi et tes amis?
Donc, en 2014, il y avait mes partenaires actuels avec deux autres partenaires qui ont décidé d'acheter une bâtisse pour créer un lieu, un espace culturel qui était beaucoup plus concentré vers les arts visuels, l'art contemporain, avec une boutique de vêtements. Puis ils voulaient faire des spectacles. Ils voulaient pas faire des spectacles, ils voulaient faire des parties pour aider à générer des revenus. Donc, c'est parti de là. C'est un ancien Ronan qui a été acheté en peut-être décembre 2014 ou novembre 2014. Et à partir du mois de mai, tu sais, il fallait faire des rénovations et tout. Puis à partir du mois de mai, début mai, un de mes amis qui était l'ancien partenaire qui m'a contacté pour voir si je pouvais m'occuper de toute la section événements. Donc, j'ai accepté, mais je voulais Je m'arrangeais d'avoir une sécurité. Alors, j'ai demandé, en échange de temps de bénévolat, d'être partenaire à part entière. Puis, c'est comme ça qu'on a parti le truc. Après, ça s'est fait très organiquement.
Wow!
À cinq. Et puis, chacun tirait un peu de son côté pour ses intérêts. Et puis, à un moment donné, ben, c'est ça, on s'est séparés parce que la vision ne collait plus trop. Il y avait trop d'actions, trop d'activités différentes. Puis, ça clashait. Donc, on a décidé de se séparer. Il y a eu la boutique de vêtements qui s'est séparée avec les deux partenaires.
Là, je me rappelle parce que c'est une rue que je fréquente beaucoup.
Ouais, c'est ça. Gardé, ouais. Exact. Puis qu'eux, ils ont préservé une boutique sur Saint-Laurent.
Oui.
Qui est toujours active en ce moment. Puis, ils ont leur propre OBNL, c'est qui sont actifs dans le milieu des arts à Montréal.
Oui.
Fait qu'ils font des murales, des trucs comme ça. Puis, wow. Ben c'est ça. Puis nous, on s'est concentré plus sur l'événementiel, les spectacles, les conférences, les ateliers, des trucs comme ça. Mm-hmm. Et puis, tout ça, sur la bâtisse, il y a comme une école d'art qui est là, et plusieurs trucs. Mais l'OBNL dans laquelle vous parlez, c'est elle qui gère la salle.
OK.
Donc, c'est deux parties, c'est deux compagnies différentes, oui. Distinctes. Mm-hmm. Donc, ouais, ben ça c'est un peu comment ça s'est passé, c'est parti. Mm. Puis,
quelle est la mission principale?
La mission, c'est vraiment de démocratiser la culture locale, puis de la développer, puis d'être un peu comme pas un épicentre, mais un espace rassembleur qui permet...
Un point de rassemblement.
Ouais, quand je dis démocratiser la culture, c'est d'aider, d'épauler un peu les nouveaux producteurs, promoteurs de Montréal qui veulent partir des soirées ou des concepts d'événements ou des ateliers, des conférences. Aider un peu les OBNL à se mettre à mettre en place des événements.
Oui, à trouver un local une salle qui est appropriée, spéciale, pas seulement aller louer des bars traditionnels là, pour faire ce genre d'événements.
C'est ça, puis qui est équipé, qui est assez équipé professionnellement, mais qui est abordable aussi. Donc, c'est à ce niveau-là. Donc, on aide les organismes en faisant des prix pour ceux qui sont, mettons, tu sais, qui un OBNL qui a une mission qui colle à la nôtre, là, évidemment.
Vulgarisation et démocratisation de la culture.
Ouais, exactement. Mm. Mais tu sais, on fait quand même encore de la location, on fait de la location de salle quand même, là, donc tu sais... Faut rouler. Alors, c'est un peu la loi de Robin des Bois.
C'est
gentiment dit.
Alors, comment ça se passe? Depuis cette ouverture, 2014, toi, en tant que directeur général, quand tu t'assois aujourd'hui, là, je suis en train de te demander comment ça se passe? Est-ce que tu, si c'était à refaire?
Ouais, si je le referais? Je sais pas.
Non, faut pas me dire ça. Faut pas me dire que tu en as déjà comme
non,
ça.
Non, mais non. Mais ça
se déroule très bien.
C'est un super projet. Mm-hmm. Ça ne fait que se développer, évoluer. Je pense que ça évolue dans le bon sens. C'est toujours deux pas en avant, un en arrière.
Oui. Comme dans tout projet, d'ailleurs.
C'est ça. Puis c'est parti vraiment de rien. Là. Donc... c'est quand même beau à voir où est-ce qu'on est maintenant à ce que c'était avant. Après, tu sais, c'est nos bien-être, donc il n'y a pas de profit. Tout est réinvesti. On réinvestit dans les salaires, mais le milieu est très compétitif, très difficile. C'est saturé. Le Québec, c'est pas la province la plus riche en termes de pour la population. C'est difficile de consommer beaucoup de culture. Beaucoup de culture, mais il y en a tellement que c'est...
Fait que
c'est difficile, mais en même temps, je veux dire, c'est très valorisant quand même. Ouais.
Parce que c'est le manteau que Montréal porte, hein. C'est une ville culturelle.
Ouais.
Et il faut pas se voiler. On peut pas être partout en même temps, comme tu le dis, les gens, tout le monde n'a pas les moyens financiers pour se nourrir uniquement de la culture.
Exact.
En gros, c'est ça, quoi. Mais quand même, le soir, j'étais là-bas, je me rappelle bien, la piste de danse était pleine.
Ouais, c'était pendant la nuit blanche quand
vous
étiez venu. Ouais, c'est ça. On avait, ben justement, c'était... Ce qui est cool avec la nuit blanche, c'est que c'est des événements spéciaux qui durent jusqu'à 6 heures le matin.
Jusqu'au petit matin.
Oui, en partenariat avec Montréal en lumière. Donc, ils nous demandent de monter une soirée en échange d'une une certaine subvention qui nous permet de payer les artistes.
Oui.
Et puis...
Et de faire la fête jusqu'au petit jour.
Ouais, exactement. Mm. Puis de ne pas charger à la porte. Donc, c'est gratuit.
C'est ce que je me suis dit, mais on paye seulement
le vestiaire.
Le vestiaire pour déposer son manteau, c'est tout. Quoi.
Voilà. Fait oh, ouais. C'est quand même cool. Ça, c'est justement, ça rentre plein dans notre mission.
Mm-hmm.
Donc, ouais, c'est ma soirée, le Maquis, qui est une soirée mensuelle de musique afrocentriste, mais c'est musique électronique, là, et beaucoup de... On met beaucoup de house.
Je me rappelle des beats que j'ai entendus là-bas. Là.
Ouais.
Mais les gens qui vont là-bas, ils vont pas s'asseoir. D'ailleurs, il n'y a pas de place pour s'asseoir. Hein. Mm-hmm. Il y a le bar pour servir. Les gens, ils ont ce qu'ils ont à boire. Ils restent là, ils boivent et puis ils sont sur la piste de danse. Quoi.
Ouais.
Et les DJ n'est même pas sur la scène. Il est devant la scène.
Ouais.
C'est l'artiste qui l'accompagnait quand j'étais là, Gotha, qui était sur la scène d'ailleurs. Je me suis dit, waouh. Quand je suis sorti, j'ai parlé avec un de tes employés à la porte, les gens de la sécurité. J'ai dit, mais. Et l'autre me dit, mais vous n'êtes jamais venu ici. J'ai dit, non, c'est la première fois. C'est Gotha qui m'a fait déplacer d'ailleurs.
Ouais.
J'ai dit, non, mais si j'ai envie de danser, c'est là que je vais aller danser maintenant.
Mm-hmm.
Parce que le beat que j'ai entendu, le DJ, je ne sais même pas qui était là ce soir-là, à la platine, ou bien aux platines, je me suis dit, waouh, il faisait bouger tout le monde.
Ouais, c'est ça. Ben, en fait, on était 3 ou 4, je crois.
Il
y avait Don Barberino.
Oui, je t'ai vu là-bas aussi.
Ouais, c'est ça. Il y avait quelqu'un d'autre qui était... Ah, Bella Vie qui était là et San Farafina.
Oui.
Une fille du collectif Moonshine aussi.
Oui.
Ouais, ben en fait, on a parti le Maquis comme un collectif avec des DJ. Et puis, on est 3 DJ à la base.
Mm-hmm.
Un des DJ, il s'occupe du visuel, la vidéo, etc. Et puis, avec 2 danseuses.
Oui.
Une qui vit à New York, mais c'est une Montréalaise à l'origine. D'origine.
Mm-hmm.
Donc, elle revient des fois à Montréal. Et puis... Anaïs Rice, qui justement, c'est Nubian Néné, puis Rice. Rice, elle habite à Montréal, mais elle fait souvent des trucs à l'extérieur.
Donc, vu
que c'est avec des danseurs, mais il y a beaucoup de gens de la communauté de danse. C'est des profs aussi. Là.
Oui, oui.
Donc, il y a beaucoup de gens de la communauté de danse qui viennent, puis ça fait vraiment un événement de danse.
Oui, oui. Et puis, ce qui m'a plu là-bas aussi, c'est tous les âges confondus. Hein.
Tous les âges confondus. Ça, c'est une autre émission du Maquis, c'est ça.
C'est ça.
Ben, c'est un peu des deux aussi.
Pas de discrimination. Voilà.
C'est ça, en fait, c'est créer un espace sécuritaire pour tout le monde.
Pas tout le monde,
mais inclusif, en fait.
Voilà, ouais. En gros, c'est le vrai.
Ouais.
On fait une petite pause musicale.
Parfait.
Et puis, on te revient. Vous avez entendu saxophone de la jeune Namibienne Suzy Aizes avec la complicité de DJ Maphorize. Et le titre de la pièce est On You, en duo Voilà, c'est une jeune saxophoniste namibienne qui fait le tour du monde, qui fait beaucoup de covers d'ailleurs avec ses amis artistes dans l'autre coin de l'Afrique. La Namibie, c'est un petit pays, c'est le seul pays qui a été colonisé par les Allemands, pour ceux qui ne le savent pas. Voilà, c'était une colonie allemande à l'époque. Voilà, Susie Isaacs, saxophoniste. Les femmes saxophonistes, on en voit de plus en plus maintenant. Hein. Mon invité est toujours avec moi, Malick Touré, directeur général de House Gang Plaza. Voilà, et puis c'est tellement bien placé, ce local-là. On sort du métro, on marche 3-4 minutes, on est au House Gang Plaza.
Ouais.
Ça, c'est une de ces... un des bons côtés, quoi, si on veut voir.
Clairement.
Ouais, ouais.
Ouais. Ça aide. Ça aide pour l'emplacement. C'est sûr qu'on a choisi quelque chose qui était facile d'accès. Puis aussi, la Plaza, c'était un des rêves d'un de mes partenaires, Louis-Vincent Hull. C'était justement de redorer un peu la Plaza. Parce que c'était en 2015, c'est encore une époque où la Plaza, elle n'était pas valorisée comme elle l'est.
Il y avait une déclinaison.
Il y avait une
chute de la valeur. Voilà. Ouais. Donc à l'époque, quand j'étais arrivé, c'était la rue Saint-Hubert.
Ouais, exactement. Mmh. Puis maintenant, ben, c'est ça. Ça
redore son blason.
Ouais, exact.
Ça redore son blason. Alors, les soirées dansantes, c'est presque toutes les fins de semaine ou bien comment ça se passe?
Ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment de qu'est-ce qu'on reçoit, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on. Il y a des fins de semaine qu'on va avoir un festival de films.
Oui.
Donc, la fin de semaine va être bloquée. Mm-hmm. Puis, on essaye quand même d'en avoir au moins une fois par semaine, mais des fois, c'est aux deux semaines. Des fois, on va en avoir deux, trois dans la même fin de semaine.
Dans la même fin de semaine. Wow.
Ouais.
Mm-hmm.
Alors.
De toutes les façons, comme Malick lui-même, DJ, il connaît ses amis, il savent. Et puis quel genre de style de musique qui passe dans ce local-là.
Alors ça, c'est quelque chose quand même important. Je pense qu'on a toujours essayé d'avoir une sélection assez éclectique.
Oui.
Avec des soirées de types de musique différentes, de clientèles différentes.
Oui.
Pour pouvoir toucher un peu toute la variété culturelle montréalaise.
Mmh. Bon. Oui.
Ça, c'est quelque chose qu'on recherche, donc fait qu'on a des soirées latines, on a des soirées hip-hop comme classique américaine.
Oui, oui.
On va avoir des soirées africaines, on va avoir des soirées
funk,
des soirées LGBTQ maghrébine.
Oui,
on a vraiment de tout.
De tout.
Ouais.
On va parler un peu des locations de salles.
Ouais.
Comment ça se passe, les locations de salles? À qui on s'adresse? Est-ce qu'on s'adresse directement? Et comment ça se passe d'abord? Les gens appellent là-bas, tiens, j'aimerais louer une salle. Bon, combien de personnes? J'ai vu que ça prend 450 personnes.
Oui, exact. Wow. On a 464 places.
464 places, oui.
200 places assises.
Très belle scène d'ailleurs.
Oui, c'est ça. Ouais. Puis 200 places assises. Donc, c'est une salle open format. Donc, c'est à concept ouvert à peu près. Là.
Oui.
Donc, notre stage est déplaçable.
Oui.
C'est sûr que ça nécessite des coûts, mais tout est faisable à peu près. Là.
Puis, oui.
On a un écran de 40 pieds sur 12. Fait que ça fait vraiment quelque chose d'extraordinaire quand c'est allumé.
Très belle salle.
Ouais, puis sinon, pour le booking, pour la location, il y a juste à nous écrire.
Oui.
À travers notre site web, une liste de petites questions. Ensuite, on envoie des soumissions. Puis, dépendamment des projets, dépendamment de la location, ça peut être strictement de la location, comme ça peut être de la collaboration.
Oui.
Donc, on fait des formats hybrides dépendamment de c'est quoi.
Oui, c'est ce que j'ai trouvé sur le site d'ailleurs.
Ouais.
C'est ce genre de format. J'ai vu des photos là-bas, comment ça se place.
Oui.
Et comment ça. Et les prix varient en fonction de la tête du client ou bien quand, la plupart du temps, c'est comment ça se passe par exemple, je fais le lancement du livre.
Ben, c'est ça. Ça dépend des jours.
Oui.
Ça dépend du besoin.
Si c'est dans le courant de la semaine ou bien en fin de semaine.
Exact. Tout dépend.
Oui.
Donc, si c'est la fin de semaine, c'est plus cher. C'est presque le double de prix de location de base.
Comme un peu partout.
Ouais.
Ouais.
Par contre, tu vois, tous les frais additionnés, mettons le service technique, le service de sécurité,
oui.
Ça reste les mêmes prix.
Mm.
Donc, ça dépend vraiment de l'utilisation. La semaine, en fait, c'est 500 $ plus les frais qu'on ajoute.
Oui.
Frais techniques, frais de sécurité. Après, on fait des bundles dépendamment de l'équipement que vous avez besoin.
C'est ça. Mm-hmm.
Puis le service de ménage. Ensuite, la fin de semaine, c'est 900 $ plus la même chose.
Oui, oui.
Donc, c'est ça.
Oui.
Fait que c'est quand même...
C'est le package, quoi.
C'est ça.
Voilà. Donc, après, c'est pas juste la salle et puis la personne vit avec ses trucs électroniques, ses affaires. Non, tout est en place.
Tout est en place. On peut faire du clé en main autant que la personne peut venir puis la coque est vide.
Oui.
Donc, évidemment, pour nous, c'est plus profitable d'offrir ça clé en main.
Et puis un personnel très sympathique. Je me rappelle de la seule soirée là où j'étais vraiment, même les gens, déjà à l'entrée au vestiaire, l'accueil qui était là, le sourire dans le visage, il y avait la banane partout dans le visage de cette jeune fille qui travaille au vestiaire, et les gens au bar aussi, c'est ce que j'ai remarqué. Je me suis dit, mais il faut qu'on en parle. Parce que c'est très important, ce genre de salles comme ça, il faut que les gens qui reçoivent, ou bien les gens qui arrivent se disent « Ah, tiens, je me sens chez moi. »
Oui, définitivement.
C'est très important.
Ben, c'est bien, merci de le reconnaître. Je vais passer le mot.
Oui.
Ça fait chaud au cœur, c'est clair.
C'est très important.
Ouais.
Alors, quand Malik se dit, ça fait 2014 quand même, qu'on a ce...
2015, l'ouverture officiellement.
Officiellement, ouais. Ok. Ouais. Est-ce qu'on pense à un deuxième quelque part encore? Pas forcément dans le quartier. Agrandissement, quoi.
Non.
Ce serait trop.
On y a rêvé déjà, mais...
Mais vous avez dit...
Ben, c'est parce que... C'est ça, je pense qu'avec le temps, le but, c'est de bien faire les choses.
Oui.
Puis, je pense que... Je suis pas à la base... Je suis entrepreneur par défaut. Je suis un artiste dans l'âme. Je suis pas là.
Mais de nos jours, il y a pas mal d'artistes qui sont devenus entrepreneurs en même temps. Hein?
Ouais, mais c'est une question d'énergie, puis de temps, puis de où on veut s'investir.
C'est ça, oui.
Puis j'ai pas de temps. C'est pas un besoin de pour moi de faire de la gestion. Je trouve que déjà, c'est beaucoup.
Mm-hmm.
J'aime mieux d'utiliser mon temps pour être avec ma famille, mes amis, ma fille.
Parce que c'est pas, le but n'est pas forcément de s'agrandir.
C'est d'être bien, puis de bien faire les choses. Puis je pense que c'est déjà un gros défi pour moi de faire ça. Il y a des gens qui le font mieux, donc je vais leur laisser faire ça s'ils veulent. Moi, j'ai des bonnes idées, mais la gestion, c'est pas mon dada, donc c'est vraiment difficile.
Je
l'assume, là, je suis comme... c'est ça, c'est sûr que c'est toujours alléchant des fois, après, de dire, un nouveau projet, ci ou ça, mais comme avec le temps, j'ai appris que...
Il faut bien réfléchir avant de faire le saut, quoi.
Finir son assiette avant de recommencer.
Avant de recommencer. C'est pas parce que c'est... On peut se servir à provision.
Mon grand-papa m'a dit, non.
Voilà, non. Alors, si par exemple... J'ai appris même qu'il y a Télé-Québec qui fait une émission là-bas.
Ouais.
Ça continue?
Ouais. On s'est refait la deuxième saison cette année.
Wow.
Ouais, ça nous a vraiment...
Comment le directeur général a réagi quand il a été contacté pour ce genre de projet d'émission de Télé-Québec qui s'enregistre dans cette salle?
En fait, c'est drôle, les étoiles se sont alignées parce que c'est pas la première émission.
Oui.
On a déjà eu le banc public, je pense, un truc comme ça.
De Télé-Québec aussi?
Télé-Québec aussi, oui.
Comment ils vous ont découvert, même?
je sais pas. Mais la deuxième, en fait, Plaza Plaisir. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a plusieurs gens qui participent, qui connaissent très bien notre salle, dont les productrices. Et puis, ce qui est drôle, c'est qu'une des productrices, c'est une bonne amie de ma bookeuse.
Oui.
Mais aussi, j'avais pas réalisé qu'ils se connaissaient comme ça, mais c'est mon ancienne voisine. Donc,
Montréal, c'est grand, mais c'est petit. Hein.
C'est petit. C'est vraiment petit.
Montréal, c'est grand, mais c'est petit. Ça, il faut le dire.
Ouais, c'est ça. Fait que je sais pas.
Donc, c'est allé très vite, là.
Ouais, ça a été très vite. Mm. Et puis, pour eux, je pense que PY, je pense qu'il y avait une vision de faire une émission sur la Plaza qui reflétait un peu la culture montréalaise. Donc, ça fitait vraiment avec comme un peu notre mission aussi.
Oui, je comprends.
Fait que c'est ça. Les étoiles se sont alignées.
C'est PY qui est l'animateur, le présentateur.
Ouais, exactement.
Ok, d'accord. Ouais. Alors, quel est le dernier mot à passer à ceux qui nous écoutent, qui aimeraient voilà, organiser quelque chose et puis ils sont en train de se poser la question, où est-ce que je vais faire cet événement-là? Dans quel bar? Non, pas forcément dans un bar, mais dans une salle événementielle.
Ouais.
Avec tout le paquet qui vient avec la technique, la sécurité, tout, tout, tout. Et puis en plus, il y a un petit bar derrière où on peut prendre de quoi boire. Quel est le conseil que vous avez donné à ces gens qui nous écoutent?
Ben, d'arriver préparé, d'écrire en fait un descriptif de son idéal, puis de se laisser aller son imagination, parce que tout est possible avec des moyens, c'est sûr.
Oui.
Mais à partir de là, nous contacter, puis de voir qu'est-ce qui est possible.
Le site, c'est Housegang?
Housegang, c'est www.housegangplaza.com.
Housegang Plaza, en un seul mot.
Ouais, Housegang, ça s'écrit A-U-S-G-A-N-G.
C'est un mot allemand, ouais.
Ouais. C'est ça. A-U-S-G-A-N-G-P-L-A-Z-A.
.com.
Et voilà. Oui. Puis nous écrire, puis normalement, en 24 heures, on vous répond.
Wow.
Ouais.
Merci.
Mais merci à vous.
Et puis, on se voit bientôt?
Oui.
Je sais que si j'ai envie de danser maintenant, c'est là-bas, je vais aller me trémousser un peu. Merci d'avoir eu le temps de passer nous parler de ça, malgré ton emploi du temps chargé. Et bon vent à Housegang Plaza.
Merci, c'est bien. Ok,
plaisir.
Enchanté. Ouais.
Restez à l'écoute. Après la petite pause publicitaire, mon deuxième invité avec moi, il est déjà là d'ailleurs, Henri Pardo, pour nous parler de son premier long métrage Carnaval. Allez, à tout de suite. Restez à l'écoute.
Caraïbes avec Fulgence Blas.
Oui, vous êtes toujours à l'écoute d'Afrique Caraïbes avec Fulgence Blas et son invité pour cette deuxième partie de l'émission, Henri Pardo, réalisateur, comédien, pour nous parler de son nouveau bébé, permettez-moi du terme nouveau bébé, son premier long métrage, Carnaval. Je n'ai pas dit carnaval, je dis bien Carnaval, K-A-N-A-V-A-L, c'est bien ça. Et la première au Québec dans les salles, c'est demain. C'est demain le 3. Faut pas que je me trompe de date. Hein. Demain, vendredi 3 mai, au cinéma Beaubien.
Exact.
Bonjour Henri Pardo.
Bonjour.
Merci d'avoir eu le temps à la veille de ton premier long métrage, de venir nous parler de ça.
Ça me fait vraiment plaisir.
C'est très apprécié. Et pour ceux qui l'ont connu comme comédien, non, maintenant il est réalisateur. Je peux pas dire. Est-ce que c'est Montréal? Non, il est Edmondston. Il est au Nouveau-Brunswick. Oh, allez, c'est là-bas qu'il est né.
Oui.
Bonjour, Henri.
On est partout.
Ah,
on se plante partout. Même au Nouveau-Brunswick, en plein mois de février.
J'espère que Henri a gardé le contact avec les amis d'enfance.
Oui. Si j'ai gardé le lien avec les amis d'enfance?
Oui. J'espère.
Oui. J'espère, oui. Quand j'étais à l'écriture de Carnaval, justement, j'ai fait un petit pèlerinage dans le coin où je suis né pour me remémorer des vieux souvenirs et puis tout. Oui. Et j'ai rencontré les gens qui étaient proches de moi, du moins leurs enfants. Mm-hmm. Et puis, on a passé un bon moment ensemble. C'était bien.
Alors, si vous nous écoutez, appelez Poudis, il nous raconte des trucs. Poudis, il ne vous a pas oublié. Alors, on va parler d'abord du nouveau-né. Ensuite, on va faire un petit clin d'œil à ton parcours personnel dans le milieu. Parce que là, vraiment, c'est pas ton premier film, c'est ton premier long-métrage.
Mm-hmm.
Parce que tu as commencé. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, pour ceux qui l'ont connu comme comédien, il n'est plus comédien. Il joue aussi, mais...
Moi, je le vois
beaucoup plus comme réalisateur. Réalisateur. Alors, Carnaval, comment est l'idée Comment l'idée est venue de prendre la plume, de dire, je vais, parce que c'est un peu, tu te retrouves là-dedans dans ce film-là.
Oui, oui. Je me suis fait plaisir. Je me suis fait plaisir parce que une fois de temps en temps, on se remémore un brin de notre enfance, une idée, un rêve ou des trucs comme ça. Et puis, c'est un peu là-dedans que j'ai commencé à écrire, mm-hmm. en me remémorant certains trucs, certains manques.
En train de prendre une marche.
Ouais,
sous la
ouais,
douche. Ou bien sur le balcon, ou bien dans la cour en arrière.
Exactement, les mm-hmm. marches en forêt, puis tout ça, est-ce que mm-hmm. ça me faisait penser. Puis la relation aussi avec mes parents, mm-hmm. particulièrement avec ma mère. Qui venait d'ailleurs, vraiment. Et puis cette relation-là, ça m'a inspiré d'écrire cette version-là oui. de notre histoire, parce que ce n'est pas notre histoire, mais bien inspiré. Après ça, les comédiens, la technique prend le dessus et puis ça devient tout autre chose. Mm-hmm. Mais c'était vraiment de regarder cette relation-là.
Tu ne l'as pas que réalisé, tu n'as pas fait que le réaliser, tu l'as écrit.
Oui. Oui. Oui, ça, c'était un grand plaisir.
Tu avais cette habitude d'écrire?
Oui, mais différemment.
Oui.
Différemment.
Parce que c'est un drame. Hein?
Un drame.
Oui.
Mais pour moi, ce n'était qu'amusement, l'écrire. Déplacer mes personnages à gauche, à droite, les mettre dans des situations peu communes. Je m'amusais comme un enfant qui s'amuse avec ses jouets-là, avec ses petits bonhommes soldats ou super-héros. Et puis, c'était très libérateur d'avoir cette distance-là. Et puis, ça sied bien aussi à l'histoire parce que c'est l'histoire d'un garçon qui observe tout, mais tout.
Ah ouais, je l'ai vu.
il voit des trucs qu'il ne devrait pas voir.
Il ne laisse rien passer, ce garçon-là.
Exactement.
Mais écrire un drame, est-ce que c'est différent d'écrire quelque chose de... Un drame, ce n'est pas banal, il ne faut pas le dire. Mm-hmm. Ce n'est pas banal. Juste un truc de quelque chose de comédie pour faire rigoler un peu, beaucoup plus d'humour là-dedans.
Oui, oui, je ne suis pas spécialiste de
Est-ce
comédie.
Que tu écris en même temps et tu fais de la visualisation de tes personnages?
Oui, jusqu'à un certain point.
L'imagination, la visualisation,
quand
oui.
Quand je suis auteur, quand je suis scénariste, j'essaie de ne pas trop visualiser. Mm. Je laisse là au réalisateur. Quand okay. ça sera son temps, il mettra son chapeau de réalisateur. Et puis
mais là, tu
ça.
As réalisé ta plume en même temps.
Exactement, donc oui. je faisais cette tâche-là en premier, c'est juste l'écriture, vraiment m'assurer que la structure, les personnages, j'appelle ça le squelette du film, mm. soit bien intact, comme je veux que cet animal le soit. Et après, quand c'est temps, bon, ben là, je suis avec mon équipe et puis on y va, je suis là comme réalisateur. Donc, écrire m'a permis, oui, de m'amuser avec tous ces personnages-là et de rêver. Et réaliser, ben ça, c'est autre chose. Ça, c'est de reconstruire Haïti. C'est de reconstruire ces histoires qui viennent d'ailleurs et puis de l'écrire de notre point de vue. Mm. Ce ne sont pas nous, les extraterrestres, mais on atterrit sur une planète qu'on ne oui. comprend pas.
Qu'on ne comprend pas,
particulièrement oui. quand mm-hmm. on vit des trucs assez dérangeants. Oui. Donc, ouais, j'aime les deux métiers.
Tu aimes les deux métiers. Mm-hmm. Je pense bien que ce n'est qu'un début. Écrivain et réalisateur en même temps.
Mm-hmm.
Peut-être qu'il va prendre goût au long métrage et puis va dire, oh, les documentaires, je ne veux plus entendre parler de ça. Je ne veux plus entendre parler des documentaires. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais brosser un peu rapidement son parcours. Faut pas tenir pour acquis que les auditeurs, tout le monde connaît mm-hmm. Henri. Henri il a été comédien avant d'être réalisateur. Ses parents ont déménagé de Nouveau-Brunswick, d'ici à
Montréal.
À Montréal, c'est ici qu'il a grandi. Et qu'est-ce qu'il est allé faire? Il est allé à l'école.
Ça commence bien.
Non, mais parce que tu n'es pas allé seulement là, à l'INIS, là, à l'école nationale, je ne sais quoi, Institut de son. Là.
Oui.
Tu es passé par l'école de comédien, la grande école.
Oui, le conservatoire.
Le conservatoire d'abord.
Oui.
Ça,
oui.
Ça a commencé là. Et puis ensuite, la comédie. Ensuite, Henri s'est rendu compte qu'il pouvait lui-même raconter des histoires. C'est comme ça que c'est venu que Henri oui. s'est retrouvé à l'INIS.
Oui, 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 tout à fait.
Ouais.
Tout à fait. Mmh. C'est le manque de personnages tangibles,
oui.
profonds, dont je n'avais pas accès dans le milieu. Et même à l'école aussi, C'est bien vu d'avoir fait le Conservatoire d'art dramatique de Montréal. C'est une grande école, mais ça a
Est-ce
été...
Est-ce que c'est une école à laquelle tu rêvais depuis ton enfance, ton jeune âge?
Non, parce que je faisais déjà du théâtre bien avant donc okay. De savoir que l'école nationale ou le conservatoire existait. Mm. Je suis rentré au conservatoire parce que j'avais ce désir de comprendre comment diriger des comédiens parce que je voulais être metteur en scène de théâtre.
Okay.
Et puis, je me suis laissé prendre au jeu, mais le conservatoire a été un endroit assez brutal, en fait, pour l'apprentissage.
Pourquoi?
Parce que... Ben, justement, j'en parle un peu dans mon film. De mon point de vue, sauf la brutalité qu'il y avait, là, parce que c'était vraiment de l'intimidation, des fois, dans la façon d'enseigner, je dirais que... ça m'a appris qu'il est important d'avoir ses racines bien ancrées dans le sol. Au théâtre, on travaille vraiment pas des icônes, mais des archétypes très, très, très forts, très, très solides et ancrés. Et une façon de comprendre ça, c'est de voir les liens avec soi. Et puis, je pense qu'un comédien essaie de toujours se grounder, comme on dit, pour bien incarner le rôle.
Oui.
Et travaillant des personnages comme des personnages plus d'ici, comme du Michel Tremblay ou du Shakespeare et puis tout ça. Mais pour nous, venant d'ailleurs, il y a quelque chose d'un peu étrange.
Oui.
Parce que ce ne sont pas notre littérature. On les comprend, on les lit.
Et puis c'est vrai parce que...
Mes tantes à Bérénice de Racine, sur son livre, sur sa table de chevet, ils aiment, ils ont bien compris la culture francophone du moins.
Mm-hmm.
Mais ça offre quand même une distance quand c'est le temps de puiser dans tout
ce qu'on est. De puiser parce qu'on n'a pas été biberonné avec cette culture-là.
Exact. Et, voilà. Et l'éducation, les exercices qu'on fait ne tiennent pas en compte notre histoire et de la façon que nous, on s'humanise ou on creuse dans l'humanité en tant qu'artiste pour comprendre quel morceau aller chercher pour rendre le bon père ou le bon fils ou le bon méchant.
Oui.
On n'a pas les mêmes référents, donc il y a comme tout le temps de la traduction d'impliquer. Mm-hmm. Et quand on est jeune adulte, c'est...
Ou bien mauvaise interprétation, tout court.
Oui.
Ça peut être là.
Oui, oui, exact.
Alors, est-ce que c'était facile de réunir toutes les grosses têtes là que j'ai vues dans le film? Les interprètes.
Ben, la première les grosse tête, Ryan Dieudonné,
oui.
ça a été un plaisir de le trouver. On l'a rencontré parce qu'on s'est dit, il faut aller hors des circuits battus. Et puis, on est allé à la Maison d'Haïti, la plus grande maison d'accueil du Québec, comme j'aime dire. Et puis, c'est dans leur camp de jour qu'on a découvert Ryan et ses petites sœurs. Qu'on a entrepris un dialogue à travers les auditions et puis tout. Et puis on a vu, c'est son regard qu'on a vu. C'est ça qui m'a, je dirais pas charmé, mais intrigué.
Intrigué, quelque part.
Je voulais en savoir plus. Je remarquais que tout ce que les adultes pouvaient dire, ils comprenaient. Ils comprenaient le sous-texte, tout ça. Donc j'ai fait, OK, ça c'est vraiment un bon départ.
Un regard que tu interprétais à ta manière avec des mots là-dessus. C'est comme si le regard te dictait, t'envoyait les mots.
Oui.
Oui.
Exactement. Wow. Ouais. Il avait ce regard et cette compréhension des grands enjeux. En travaillant avec un enfant, on ne peut pas aller nécessairement trop dans la tête.
Il y a une autre approche.
Il y a une autre approche, voilà. Mm-hmm. Et puis pour lui, c'était d'avoir une aventure par journée, de comprendre l'histoire et décortiquer ça par des actions simples.
Mm-hmm.
Mais plus on travaillait, plus il voulait de la nourriture, comme on dit, pour nourrir son personnage.
Il en voulait plus, il en demandait.
Ah oui, exactement. Mm-hmm. Donc, c'était un beau... Et de voir lui et Penande travailler, ça, c'était formidable.
Penande, Martin Dubreuil, Claire Jacques, Taylor et Passy. On dit Taylor ou bien Tyler?
Tyler
et Passy, Rico Belmar et puis Sylvain Massé. Comment tu as réussi à convaincre les deux producteurs, là? Eric Idriss et puis Daniel.
Comment je les ai convaincus?
Comment tu les as convaincus?
Eh bien, ça, la première personne, Eric Idriss, c'est une rencontre, un blind date, comme on dit.
Mm-hmm.
Des amis ont dit, vous devrez vous rencontrer parce qu'il me semble que vous pourriez travailler ensemble. Il était producteur, afro-descendant et moi aussi. On s'est rencontrés et puis j'ai fait, rendu là, personne ne va entendre parler de mes histoires et puis tout. Et puis, je lui ai parlé d'une de mes histoires.
Oui.
Parce qu'on est découragé, hein, des fois. Oui. C'est bien beau tout ça, là, mais on passe des années découragés parce que il n'y a personne qui nous écoute. Il y a tellement de gens qui veulent faire des films et puis tout. Et puis, une histoire de ce point de vue-là, qui voudrait faire ça et qui, même si la personne est intéressée, trouver le financement pour le faire. Et lui, il l'a lu, mes deux pages à l'époque, et il m'a dit, « OK, ce sera mon premier film canadien. »
Wow!
Et j'ai fait « Eric ». Et 8 ans plus tard, c'est son premier film canadien, donc on est très, très, très heureux. Et dans cette aventure-là...
Huit années se sont écoulées.
Ouais, c'est long. C'est long. On a fait d'autres affaires en même temps, mais de trouver une bonne posture pour négocier, pour faire des demandes aussi pour ces argents-là, ça prend du temps.
Oui.
Et puis ça prend aussi des collaborateurs comme Daniela qu'on a rencontré durant le parcours, mm-hmm. qui s'est joint à l'aventure et puis ça a été une addition incroyable.
Vous avez eu du plaisir sur le plateau.
Ouais.
Avec les interprètes.
J'y tiens.
Toute l'équipe, quoi.
J'y tiens. S'il n'y a pas de joie sur le plateau, ça ne vaut pas la peine. C'est ça ma paye, moi. C'est le bien-être sur le plateau. On rigole, même si on est en train de faire un drame. Au contraire, souvent, avant et après les scènes où c'était très chargé, on est en train de rire ou se faire des blagues et tout ça. Puis à un moment donné, on fait « OK, on y va, on se concentre. » Et puis là, boum, comme des enfants qui jouent. C'est ça qui m'intéresse.
Oui, il ne faut pas trop se prendre au sérieux quelquefois.
Non.
Il faut se laisser aller, quoi, selon le feeling qu'on a. Et puis, selon le flow, comme on dit.
Oui.
Alors, pour ceux qui n'ont pas... Moi, je l'ai vu déjà. Parce que si je ne l'ai pas vu, je ne peux pas l'avoir noté.
Me questionner.
C'est un drame, il faut le dire. Et il est en face de moi, Harry Pardo, avec Ryan Dieudonné, Penaud, les noms je l'ai déjà assisté. Et c'est un gamin haïtien d'une dizaine d'années quand même, réfugié avec sa mère dans un petit village du Québec, peine à s'adapter à sa nouvelle vie. C'est ça, ça commence. Moi, son premier regard là, entre les deux portes là, quand je l'ai regardé, j'ai dit, mais ce garçon là, comme tu viens de le dire, il y a de quoi dans son regard.
Oui.
Ouais.
Oui.
C'est
une grande sagesse.
Voilà, mélange de gens plus ou moins adroits, traitement glissant à mi-parcours, rythme linguissant. Et puis, il est Dubreuil est touchant quand même. C'est aussi ça. 75, Haïti, dictature du Valier, enceinte de plusieurs mois. Herzeli, la maman, ouais. T'agacée par plusieurs hommes un soir de carnaval pour ses prétendues idées politiques. C'est une histoire qui, pour ceux qui vont se déplacer demain, là, et les jours à suivre, parce que demain c'est la première.
Oui, exact.
Ne vous attendez pas à... Ah, je connais, bon, Henri, je sais pas, bon, ouais, c'est son premier long métrage. Allez-y simplement, vous laissez surprendre, c'est mieux. Ne vous faites pas d'idées pour l'instant, là. Voilà, allez-y.
Oui. C'est vraiment ce qu'on propose, nous, comme équipe, c'est une rencontre. Venez rencontrer des personnages que vous voyez rarement, d'une part, mais surtout un univers aussi. Puis venez découvrir le monde comme Rico le fait, comme le personnage le fait, et puis de le suivre, comme un loi le fait. C'est ça, hein, les lois, ils ne sont pas là pour nous juger, ils nous accompagnent, on les rencontre au chemin croisé, puis là où on a décision à prendre, on discute, on cause, et puis à la prochaine.
Est-ce qu'Henri est en train d'écrire un deuxième long métrage?
Oui, Henri a un gros problème. Son idée déborde. Son idée déborde. Sa tête déborde d'idées.
Allez, on t'écoute.
Oui, je travaille sur un autre projet en ce moment. Travaille sur un autre projet.
Ça, c'est typiquement artiste. Hein, parce qu'un réalisateur, c'est un artiste, il faut le dire. Oui. Dans le monde artistique, les gens, avant de finir même un projet, ils sont déjà sur l'autre. Ça fouillonne tout le temps dans la tête, quoi. Voilà.
Oui, tout à fait. Dernièrement, je me suis dit, oh merde, je suis seulement heureux quand je travaille, mais j'ai besoin de vacances, tu comprends? Mais quand je travaille, je suis heureux, là, ça tourne. Donc j'ai hâte de travailler sur la deuxième version. La deuxième version du nouveau scénario que j'écris.
À mon d'accord, la deuxième version de Carnaval 2.0?
Non.
Il a vu mon regard.
Oui, non. C'est ça.
Pas Carnaval 2.0.
C'est pas le MCU, mais c'est le HCU, le Haitian Cinematographic Universe. Comme les super-héros
et tout. On fait une petite pause musicale. Et puis on revient. On fait un clin d'œil à ton parcours dans le milieu.
D'accord.
Ouais.
Tiempo un bote
Oui, pour ceux qui écoutent souvent Canal M, cette voix, c'est la voix de Zahara, la Sud-Africaine, avec le titre, d'NCD. Zahara qui nous a quittés il y a quelques mois, grande actrice, guitariste, chanteuse. Voilà, c'est un problème d'alcool qui l'a fait partir. Mmh. Alcoolique durant des décennies, en fin de compte, que la terre lui soit légère,
oui.
Que son âme repose en paix. Mon invité est toujours avec moi. On avait une petite pause musicale. Mmh. Henri Pardo. Et quand j'ai dit, Henri, quand j'ai dit sortie 67, à quoi tu penses?
Ça, c'est un coup dur. Ah, sortie 67.
Sortie 67.
C'est beaucoup de souvenirs. C'est beaucoup de souvenirs. Premièrement, le premier souvenir, c'est le fait d'avoir finalement eu un premier rôle au cinéma, d'être vraiment presque le rôle titre. C'était pas
un
moi
vrai
la sortie,
premier rôle.
Mais un vrai premier rôle où tu as le temps de travailler avec l'équipe, tu as le temps de raffiner ton personnage. Ton personnage ne dépend pas juste de deux ou trois scènes que tu as au total, mais vraiment l'entièreté d'un film. Donc ça, c'était formidable. Puis de travailler avec mes collègues aussi, les acteurs et tout ça.
Oui.
Puis avec le réalisateur, de faire ce film noir devant et derrière la caméra, c'était vraiment formidable. Bon. Oui. Je suis dur avec moi-même, peut-être, mais mon interprétation, ça, c'est autre chose. C'est un rôle qu'on m'a lancé comme ça à deux semaines d'avis, que j'ai accepté de prendre parce que je ne pouvais pas faire autrement.
Pourquoi tu ne peux pas faire autrement?
Parce que quand on voit la taille d'un rôle comme ça, on doit sauter dessus.
Ah oui.
On doit en profiter.
Ah oui.
Donc, je devais dire oui.
Et puis, tu ne t'es pas engagé ailleurs avec un autre producteur, quelque chose comme ça?
Non. C'était vraiment... Quand JFT est venu me voir, il a dit, écoute, voici la situation. J'ai perdu mon acteur. Est-ce que tu veux le remplacer? J'ai fait, je suis trop vieux. Mon créole est trop loin. S'il te plaît, aide-moi. Il a dit, laisse faire l'accent. C'est plutôt... l'état du personnage. Toi, tu te concentres sur le côté véritable de ses propos, de ses émotions, et puis on s'occupe du reste.
Les émotions, oui.
OK, parfait, j'en
parle. Les émotions ont eu le dessus de l'accent créole.
Oui.
Même si tu t'es dit que mon créole est nul, quoi.
Oui.
Alors, Sous-bois.
Oui, Sous-bois, ça a été...
2013.
C'était, on dirait, une première ébauche de certains trucs que je retrouve dans Canaval. La relation père-fils, très importante dans ce film-là, contrairement à Canaval, qui est plus mère-fils.
Mère-fils, oui.
Mais pour moi, ça a été une étape, en fait. La première étape, je pense, a été le décès de mon papa, où j'ai vu qui j'étais un peu plus. La deuxième, c'est de devenir papa, où encore une fois, je me définissais un peu plus, puis je savais c'était quoi mon rôle. Et puis ensuite, d'inclure cette histoire-là dans ma cinématographie, c'était comme la troisième étape où je bouclais en quelque sorte ce truc-là. Donc, très personnel.
La boucle était bouclée, quoi.
Une relation avec mon fils et puis ensuite une relation avec mon art. Donc, ouais, Sous-bois, ça me rappelle des bons souvenirs.
Oui. Et Jack, en 2020.
Ouais, Jack. Ouais, j'ai vu tout ça.
On fait un petit tour, on fait un petit clin d'œil comme ça, tu vois.
Jack aussi, c'est des belles rencontres. À chaque fois, c'est des belles rencontres. Moi, c'est ça qui me fait en sorte que je dois continuer. C'est le bonheur du plateau, le bonheur de découvrir, puis d'être avec d'autres artisans qui est formidable. J'ai rencontré des gens vraiment exceptionnels là-dessus.
Oh, oui. J'ai Jackie. C'était...
Non, dear Jackie...
Il y a beaucoup de gens qui t'ont connu à partir de ce film-là.
Oui, oui. J'ai beaucoup de reconnaissance. Je suis très reconnaissant à mon tour.
T'as pas vu, c'est 2021, là.
Oui,
il y a trois
oui.
ans de cela.
Et c'est encore en demande et puis tout ça. Je trouve que c'est... pour moi, ça a été très important de le faire. J'ai vraiment plongé dans la communauté anglophone, afro-descendante de Montréal... c'est devenu des amis, c'est vraiment devenu de la famille. Et comme haïtien aussi, ça m'a fait du bien de juste me décentrer un peu. On est majoritaire.
Wow.
Et donc, de regarder qu'il y a d'autres expériences, et particulièrement anciennes, du côté de la petite Bourgogne. Mm-hmm. C'est du 200, 250 ans qui est là en train d'œuvrer. Et puis, c'est vraiment eux... ce village irrésistible gaulois.
C'était le quartier. Hein. La petite Bourgogne.
Oui, il résistait à tout. Donc ça, oui,
c'était le quartier. Ça. C'était la petite Bourgogne. Mm-hmm. Voilà. C'est... Mm-hmm. Alors là, de toute façon, ça t'a permis de décrocher Canadian Screen Award Nomination pour Jackie.
Oui.
Voilà. Et puis quoi encore là? Le Magnus Zaik Award en 2021. Ouais, Montreal International Documentary Festival. C'est quand même, c'était... Jackie, pour moi, ça reste dans les annales, quoi.
Ouais. Je suis content d'entendre ça, vraiment. Vraiment, oui. je le redécouvre aussi.
Ouais.
Ça a été un beau projet. Encore une fois, une belle équipe, vraiment fait avec douceur.
Avec douceur.
Même si les thèmes étaient durs, parfois, à porter.
Ça fait partie du cinéma.
Oui, mais je dois apprendre
de
ça.
On peut pas avoir des thèmes souvent tout le temps doudou ou quoi. Mmh. Et là, on arrive avec Canaval, première, voilà, Toronto International Film Festival. Ceux-là, ils ont eu la chance de voir ça avant nous. Ils ont eu la chance de voir. Exactement. Alors, ça commence demain. Quel est le message que Henri lance à ceux qui nous écoutent pour dire, allez, on va y aller. Bon, faut pas oublier, hein. Ça a été nommé Winner of the Amplified Voices Award for Best Film. Mm-hmm. Il faut le signifier. Oui. C'est ce que vous allez voir demain, là, vous qui nous écoutez. Voilà, c'est comme ça. Oui. Donc, c'est vraiment...
Puis le prix du public aussi, ouais, à Cinémania.
C'est ça.
Donc, non, ça commence très bien. On est très contents. Maintenant, on a hâte de rencontrer le public.
Mm-hmm.
Je les invite à la rencontre.
Oui.
Je les invite à faire la fête. Et j'invite tous les enfants à l'intérieur d'eux de venir au cinéma.
C'est vrai.
Ouais, amenez votre enfant intérieur à venir voir le film.
Quel est le message que tu as à passer à tes interprètes?
À mes interprètes?
Oui, wow. Ils vont se déplacer demain, non?
Oui. Voilà.
Des amis beaucoup, interprètes.
Oh, oui, ouais. C'est ça. J'ai beaucoup d'amour pour eux et beaucoup de respect.
Mm-hmm.
Et puis je les remercie beaucoup d'avoir plongé dans mon univers. Mm-hmm. Ils me remercient énormément aussi, là, ces récits.
D'avoir accepté tes caprices, supporté tes caprices. Chacun de nous a ses caprices, ton Henri.
Oui.
Tu voulais te faire rire un peu.
Exactement. Mais non, c'est ça. Non, j'ai les 4, les 5, les 6, parce qu'il y en a plusieurs, là, mais... Mon petit Ryan, c'est le frère de tout le monde qui était sur le plateau.
Mm-hmm.
Et ça va le demeurer pendant longtemps, lui et sa famille.
Mm-hmm.
Travailler avec une femme exceptionnelle comme Penant d'Estime, c'est un grand, grand privilège. Je trouve que je passe à hauteur encore.
Mm-hmm.
Et puis, bien sûr, Martin et Claire. Martin, c'est juste d'être aussi volontaire et de plonger dans mon univers.
Mm-hmm.
Je les remercie.
Sans oublier toute l'équipe dans l'ombre.
Oui.
Ceux qu'on n'a pas vus, les habilleurs, les caméramens, ceux qui déplacent la scène, tout, le montage, tout le monde.
Oui, pour rendre tangible ma vision, qui est un délire.
Mm-hmm.
Moi, je suis dans mon coin, j'invente des histoires.
Ils ont accepté de te suivre dans ton délire.
C'est ça, ils les mettent en chair et en os, et puis ça me... Des fois, je voyais les décors, je me dis, mais mon Dieu, vraiment, là, j'ai l'impression d'être en 75, en Haïti, je suis là, tu sais. Donc, c'est vraiment une équipe formidable.
Merci beaucoup, Henri.
Ça me fait plaisir.
Henri Pardo, réalisateur et comédien en même temps, il va toujours... Vous allez le voir aussi dans d'autres scènes, dans d'autres films, sans qu'il s'y soit la plume forcément, ou bien sans qu'il réalise. Il y a des gens qui auront besoin de son talent de comédien, bien sûr, ses amis. Alors, rendez-vous demain. C'est à partir de quelle heure? C'est à quelle heure?
Je crois que c'est à 18h30.
À 18h30,
mais,
au cinéma Beaubien.
Mais c'est déjà complet au cinéma Beaubien, donc je vous suggère le cinéma Quartier Latin.
Oui.
Et puis pour les anglophones, il y a une version sous-titrée au cinéma du musée.
Au cinéma du musée. Ouais. Merci beaucoup, Henri.
Un plaisir.
Au plaisir de te revoir demain.
Ouais. Oui, à demain.
On dit bon vent à Canaval.
Oui,
merci.
Grand vent.
Merci à toi, Maurice. On dit merci au premier invité, Malik Touré, qui est venu nous présenter House Gang Plaza, la salle événementielle. Et merci aux fidèles auditeurs et à la recherche de l'émission Catherine Boudouran. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure sur les ondes de Canal M. Et prenez soin de vos minutes. Je vous dis ciao.